Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Pourquoi rentres-tu si tard? Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Et apparut une fille, comme on en voit seulement sur les affiches de cinéma, en tailleur beige, grande, mince, avec des cheveux blonds, mi-longs qui ondulent, les lèvres sensuelles, de grands yeux bleus qui bougent tout le temps. Elle alla s'asseoir à une table vide en faisant onduler ses hanches. Et commanda un gin. À une table en face de la sienne, qui la regardait, se trouvait un homme mince, brun, au visage un peu osseux. Il était habillé d'un costume gris. Il regardait cette fille, puisqu'on ne pouvait pas faire autrement que de la regarder. Il émanait en elle comme une sorte de lumière. Elle était devenue le centre de la salle. Il remarqua, sous la table, ses belles jambes croisées. Une fois qu'elle eut bu une gorgée, elle ouvrit son sac pour en sortir un paquet de cigarettes. En prit une, la mit à sa bouche et chercha dans son sac quelque chose pour l'allumer. Comme elle trouvait rien, elle regarda autour d'elle. L'homme se leva et s'approcha d'elle. Et lui dit, « Vous voulez du feu, mademoiselle ?» Elle le regarda avec un peu de dédain, mais très vite, un de ses sourcils monta. Son visage s'illumina et elle sourit.
« Oui. »
Sortit de la poche de son pantalon un briquet, le mit en marche et tendit la main. Elle approcha la cigarette qui était à sa bouche.
« Merci. »
Luc Lebro. Il lui montra la chaise. Elle fait signe que oui. Il s'assit.
« Je m'appelle Judith.
Vous venez souvent ici ?»«
Non, pas vraiment. »
L'homme remarqua, c'est que malgré qu'elle ait parlé, son charme restait. Chose rare chez les jolies femmes. Il commanda un café. Les yeux de la femme avaient cessé d'aller et venir. Sa main fine, blanche, avait des doigts qui se terminaient par de longs ongles rouges. Faisait tourner son verre. L'homme, après avoir bu une gorgée, dit « Moi non plus. D'ailleurs, je sors très peu. Mais ce soir, j'avais envie de me détendre. Je venais de finir d'écrire 10 pages d'affilée.
Vous êtes écrivain ?
Oui, et vous ?
Je suis secrétaire dans une agence de syndic d'immeubles.
Ah, c'est très bien.
Un peu, oui, mais la plupart du temps nous recevons les doléances des locataires ou copropriétaires. Ce n'est pas marrant du tout.
Elle lui sourit.
Ça doit être bien d'écrire des romans.
Oui, assez. Je fais surtout des biographies. Je viens de finir celle de Tolstoï.
Ça doit être passionnant.
Oui, assez. Elle finit son verre.
Il se fait tard. Il faut que je rentre.
Elle fouille dans son sac.
j'ai oublié mon argent.
Laissez, je vais payer.
Merci.
Ce n'est rien. Elle range son sac, lui termine son verre et fait signe à un serveur.
Je suis confuse.
Ce n'est rien. Le serveur arrive. Il le paye et il se lève et sort du café. Je vous raccompagne.
Merci, oui, si vous voulez.
J'ai pas de voiture, elle est en panne.
Cela ne fait rien, j'aime marcher.
Dehors, la nuit est douce, nous sommes en juin. Nous allons de quel côté?
J'habite rue Vendôme.
Marchant, il bavardait. Lui se disait qu'il n'aurait jamais cru pouvoir se trouver avec une aussi jolie fille. Vous habitez seul?
Oui, et vous?
Je suis seul, mais de temps en temps j'ai mon fils qui vient vivre avec moi. Je suis veuf.
Moi, je suis divorcé.
En passant devant le cinéma opéra, il s'arrête pour regarder les affiches. Il lui dit: vous aimez le cinéma?
Oui, beaucoup.
Pour une fois, le cinéma opéra diffuse un festival de films français. C'est rare. Pour les cinéphiles, le cinéma, ce n'est que le cinéma américain et la nouvelle vague française. Une nouvelle vague qui vieillit. Tiens, il diffuse encore de Malheur jeudi. Je vous dirai de venir avec moi?
Pourquoi pas?
Il est abasourdi. Ils se remirent à marcher. Ils arrivèrent rue Vendôme. Elle s'arrêta devant l'entrée d'un immeuble moyennement cossu.
Voilà, je suis arrivé. Je vous remercie. Au revoir.
Au revoir, et à demain à 21h.
Oui.
Et elle ouvrit la porte de son allée. Il s'en alla tout heureux. Le lendemain, ils se retrouvèrent pour aller au cinéma. Après le film, il la raccompagna. Elle lui demanda:
vous habitez Lyon?
Non, d'Ardilly, dans une petite maison.
Vous en avez de la chance.
Vous savez, ce n'est pas très drôle la campagne lorsque l'on est seul. Après cette soirée, il l'invitait une fois par semaine à voir un spectacle, un concert. Théâtre.
Qu'est-ce que tu fais avec ton mouchoir à la main, là?
Et toi?
Ah non, moi, rien, moi j'attends que j'éternue. Ouais.
Ou simplement restaurant. Sympathisèrent mieux. Lui, il la trouvait délicieuse. De temps en temps, il cherchait à l'embrasser, mais elle ne voulait pas. La semaine prochaine, je ne pourrai pas vous inviter. J'ai mon fils chez moi.
Quel âge a votre fils ?
18 ans. Il s'appelle Didier. Il a décidé de vivre seul à Paris. Et pendant les vacances scolaires, il vient habiter quelques jours chez moi.
Vous vous entendez bien ?
Oui, du moment que je l'empêche pas de faire ce qui lui plaît. Se réveilla tôt, car son fils arrivait vers les 9 heures. Il habitait une petite maison au fond d'un parc un peu en retrait du village. La maison était en pierre grise, à un étage et du siècle dernier. L'on y rentrait par 2 marches et une porte-fenêtre. Couloir qui mène à la cuisine, salle à manger, salon, bureau et escalier qui mène à l'étage où se trouvent 3 chambres et 2 salles de bain. Le tout était meublé avec des meubles de différentes époques, de styles, qui provenaient de plusieurs héritages. Mais le tout était décoré et marié avec goût et luxe. Luc se leva et sortit de sa chambre en pyjama marron. Alla dans la salle de bain. Sortant de la salle de bain, il était habillé d'un costume beige. Il descendit à la cuisine. Il était bien heureux. Depuis la mort de sa femme, il y a de cela 5 ans, elle était morte d'une tumeur au cerveau et c'était la première fois qu'il fréquentait une femme. Vers les 9 heures, sonne au portail son fils. C'était un jeune homme de taille moyenne, cheveux bruns et le visage très sympathique. Il était habillé d'un pantalon beige et chemise blanche et portait à la main une petite valise. Le père lui ouvrit. Le fils entra dans le parc.
Bonjour père. Bonjour Didier, comment vas-tu ? Ça va ?
Le père lui prit sa valise et ils rentrèrent dans la maison.
Tu veux te reposer ?
Non, ça va.
Le fils prit la valise de la main du père et dit :
Monte dans ma chambre, ranger mes affaires.
Demi-heure plus tard, ils sont tous deux assis au salon.
Toujours dans des livres, père ?
Oui, j'ai fini Tolstoï.
Feriez mieux de vivre, sortir. Mais je sors, ne t'en fais pas. Cela m'étonne. Et tu sors seul?
Non.
Avec un de tes copains?
Non plus. Une charmante jeune femme. Elle s'appelle Judith.
Le visage du fils a changé. Il devint tout blanc et se leva.
Vous n'aviez pas le droit, père. Vous êtes tous les mêmes.
Comment je n'ai pas le droit?
Non, vous n'y aviez pas le droit.
Et mère? Mère, vous n'y pensez plus?
Mais mon petit,
ne me dites pas mon petit,
dit le fils.
J'ai 45 ans, je pense et j'aime toujours ta mère, mais je suis vivant,
dit le père.
Et elle, elle est morte,
dit le fils en sortant de la pièce en courant.
Le père l'a suivi.
Ne va pas dans ta chambre. J'ai à te dire, c'est que je ne fais rien de mal et que j'ai le droit de vivre et de voir qui je veux. Ce n'est pas un gamin de 20 ans qui me l'interdira.
En tout cas, je t'interdis de l'amener ici. Je ferai ce que je voudrais. Et si je veux l'emmener chez moi, je le ferai. Ce n'est pas un gamin qui me l'interdira.
Il n'est qu'un salaud.
Et Didier monta à sa chambre.
Et toi, un égoïste!
Une fois que son fils est parti, le premier soir où ils se revoient, il lui demanda si elle acceptait de passer un dimanche après-midi chez lui.
Pourquoi pas? J'en serais très heureuse.
Bien. Dimanche, je viendrai vous chercher en voiture à 9h. Cela vous va?
Oui.
Le dimanche matin, il est venu avec sa Mercedes blanche. Comme elle ne l'attendait pas devant l'immeuble, il est monté chez elle. En regardant aux boîtes aux lettres, il a vu qu'elle habitait au troisième étage, sans ascenseur. Il sonne chez elle. Elle ouvre avec le sourire, mais elle est en robe de chambre. Il s'aperçoit qu'elle sent fortement le pernaut. Elle le fait entrer.
Excusez-moi, je suis en retard, mais j'ai passé une très mauvaise nuit.
Vous êtes malade?
Non, rien de grave. J'ai des petits ennuis du côté du cœur.
L'appartement était clair et tout était en ordre, meublé en acajou. Elle l'a mené dans la salle à manger. Le fait asseoir dans un fauteuil.
Vous voulez boire quelque chose?
Non, merci.
Je vais me préparer, je n'en ai pas pour longtemps.
Elle le quitte. Il regarde autour de lui et a l'impression d'un certain vide. Une demi-heure plus tard, elle revenait et il partait. Il lui demanda
« Votre fils est chez vous ?»«
Non, il est parti. » Elle se détendit.
arrivée, tout l'enchanta. La verdure, la maison.
Comme c'est merveilleux. Comme vous devriez être heureux de vivre ici.
Il la fit asseoir au salon. Vous voulez boire quelque chose?
Oui, un petit apéritif.
Il la servit. Et s'assit à côté d'elle. Cela vous plaît?
Oui, beaucoup. J'ai toujours aimé vivre à la campagne.
Vous savez, ce n'est pas vraiment la campagne. Elle soupire et lui dit :
La solitude ne vous plaise pas trop?
Oui, beaucoup. Et à vous?
Moi aussi. Je ne suis jamais remis de mon divorce. Cela a été affreux. Il a cherché à m'étrangler. Heureusement qu'il y avait le concierge qui avait tout entendu. Il avait entendu mes cris.
Elle soupira. Il lui dit : Je comprends. Il faut oublier. Vous êtes encore jeune. Votre vie ne fait que commencer. Il lui prit les mains. Elle les lui laissa. Il se pencha pour lui donner un baiser sur la joue. Elle eut une seconde de recul. Puis, il lui dit : Je vous aime bien, vous savez.
Moi aussi.
Ensuite, il se leva. Il faut que je prépare le repas.
Je vais vous aider.
Et elle se leva. Se passait merveilleusement bien. Ils se promenèrent la main dans la main en se parlant.
Vous vivez comment avec votre fils?
Comme tout le monde, nous vivons comme père et fils. Quelquefois c'est dur. Les jeunes sont assez égoïstes et ne pensent pas que nous avons besoin, nous aussi, de vivre pour nous-mêmes. L'heure de se quitter arriva. Ils étaient émus tous deux. Il lui dit :
Le temps passe vite.
Oui. J'ai pas envie que vous partiez.
Pourtant, il le faut.
Cela ne vous ennuie pas?
Je suis très heureuse de cette journée.
Je vous aime. Et vous?
Moi aussi, je vous aime bien.
Elle entra dans l'allée de son immeuble. Pendant 2 jours, Luc tourne en rond mélancoliquement dans sa maison. Puis, n'en pouvant plus, il a pris sa voiture et alla sonner chez elle. Elle le reçut avec le sourire. Était à peine fermée qu'ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. « Je ne peux vivre sans vous. » Elle regarda autour d'elle et dit :
« Moi non plus. »
« Vivons ensemble. »
« Oh, Luc, oui. »
« Avant, je vais prévenir mon fils, puis vous déménagerez. » Luc prévint son fils par une lettre. Didier arriva et, comme c'était les vacances, décida de passer quelques jours chez son père. Dès arrivé chez son père, il lui demanda ce qu'il pensait de ce qu'il avait écrit dans la lettre. « Tu es major, et moi aussi. Surtout qu'elle te rend heureux. Mais pour moi, ce ne sera jamais ma mère. » « Bien sûr, Didier. » Luc prévient Judith qu'elle peut déménager. C'est ce qu'elle fait. Le jour du déménagement, la concierge, qui est une grosse et petite femme, lui demande
« Et votre état des lieux pour la remise des clés ?»«
Je reviendrai le faire. En attendant, je garde les clés. »
Le déménagement et l'emménagement se passent bien. L'on a mis ses affaires où l'on a pu. Elle n'a pas voulu que l'on déballe ses paquets et ses malles.
« Je verrai plus tard. »
Le fils est surpris par la beauté et la jeunesse de la femme. « Je l'aurais jamais cru. » Le premier jour, qui était un samedi, se passa bien. Le père fit les présentations et Didier s'était bien comporté. La veillée s'était éternisée. Les deux hommes avaient sommeil, mais elle trouvait toujours un petit prétexte pour ne pas aller se coucher. Elle semblait nerveuse, anxieuse. Ses rires, lorsqu'ils jouaient aux petits chevaux, sonnaient faux. Enfin, exténuée, après un dernier verre de scotch, elle décida qu'il fallait aller se coucher. Ils montèrent tous ensemble. Arrivée à la chambre qu'on lui avait donnée, elle dit bonsoir et ferma la porte à clé. Didier sourit et se dit « Je savais bien ». Le lendemain, la journée se passa d'une façon très enjouée. Elle adorait courir dans les prés. Luc dut s'absenter 3 heures pour aller voir un ami malade à l'hôpital Saint-Joseph à Lyon. Judith et Didier restèrent ensemble au salon. Didier se sentait de plus en plus attiré par la fille. La chaleur, les désirs non assouvis, tout ceci le faisait bander. Il s'assit à côté d'elle au salon. « Je n'aurais jamais cru que mon père ait pu ramener une fille aussi sexy que vous. Vous êtes vraiment chouette. »«
Merci. »
Il lui met la main sur la cuisse. Elle la retira. Il lui sourit. « J'aimerais tant que nous devenions copains. » Elle lui sourit.
« Si vous voulez vraiment, il faudra être sage. »«
Comment peut-on être sage devant une fille comme vous ?» Il mit la main le haut de la cuisse. Elle la retira, le gifla. Il se leva. Garce ! Et il sortit de la pièce. Il resta enfermé tout le reste de la journée dans sa chambre. Que Luc revient, elle est surpris de la retrouver seule. Où est Didier ?
Il est dans sa chambre.
T'as pas retenu compagnie ?
Non.
Pourquoi ? Vous êtes pas disputé par hasard ?
Non.
Dis-moi la vérité.
Tu peux tout me dire.
Elle fit la grimace.
Il a fait une bêtise? Dis-moi.
Il a cherché, voulu être un peu trop...
Ah, je comprends. Il sort du salon furieux. Monte à l'étage. Ouvre la porte de la chambre de son fils. Le trouve au lit. S'approche de lui. Souleva du lit. Dis salaud, tu vas foutre les corps. Il lâche son fils et sort de la pièce en vitesse. Didier fit sa valise. Se passa comme la dernière fois, mais sans Didier. Et le lendemain matin, elle partit à 7h pour son travail. Elle était arrivée à son travail tout excitée et racontait à ses collègues qu'elle vivait chez un homme formidable dans une grande maison à la campagne. Le matin, elle était réveillée par le chant du coq. Mais au fur et à mesure que les heures passaient, elle devenait moins gaie. Et le soir arrivant, avant de prendre sa voiture pour s'en retourner, elle alla dans un café. Elle prit deux scotchs, puis quitta Lyon. Juste au moment où elle arrivait à Dardilly, elle arrêta sa voiture. Elle resta 2 heures pensive, puis fila et roula au hasard. Mais mis une demi-heure avant de sortir de voiture. Elle entra. Lui s'était inquiété toute la soirée. Bonsoir Judith. Il vit qu'elle avait les yeux qui bougeaient dans tous les sens.
Bonsoir Luc.
J'étais inquiet.
Il ne le fallait pas.
Où étais-tu?
Je t'en prie, j'ai eu une journée très pénible.
Tu veux manger?
Non, je vais me coucher tout de suite.
Le lendemain, après son travail, elle alla relever la boîte aux lettres de son immeuble. Elle y trouva des piles de lettres. Parmi elles, une qu'elle semblait reconnaître, elle l'ouvrit. La lut, se pinça les lèvres et mit le courrier dans son sac. Elle était encore rentrée tard ce soir-là et a couché seule. Trois jours passa ainsi. Luc ne la vit que partir, entrer, et c'était tout. L'aimant, les cartons étaient restés tels quels. Tout ceci énervait Luc. Lorsqu'elle revint, il le lui dit et la prit par le bras et la mena au salon. Et la fit asseoir. Tu vas me dire pourquoi tu rentres si tard?
Pour rien, j'ai beaucoup de travail, c'est tout.
Tu vas pas me dire que tu as travaillé jusqu'à 23 heures? Dis-moi franchement ce qui ne va pas.
Rien, j'ai sommeil.
Et elle se leva pour aller se coucher. Au fur et à mesure des jours, Luc s'énervait et ne comprenait rien à sa façon de faire. Ce qui l'énervait, c'était qu'il n'avait aucune intimité et qu'elle ne vivait pas vraiment avec lui. Elle allait toujours à la boîte aux lettres de son immeuble. Trouvait beaucoup de courriers, ouvrait toujours le même genre de lettres. La première semaine se termina, rentra encore plus tard. Luc pensait qu'elle avait un amant. Il lui demanda ce qu'elle faisait si tard dehors. Pas de réponse.
« Tu veux vraiment pas me dire ce que tu fais ?»
Elle ne dit rien. Il la gifla. Surpris par ce geste, il l'enlaça dans ses bras et l'embrassa.
« Pardonne-moi. »
Elle se dégagea et alla s'enfermer dans sa chambre. Elle travaillait toute la journée. Il voulut savoir.
Peut-être a-t-elle un amant?
Il alla dans sa chambre pour chercher dans ses affaires. il n'y trouva rien. Le soir, ou plutôt la nuit, elle est restée des heures dans sa voiture, sur le bord de la route, à attendre, attendre. Elle sentait l'alcool, les mains qui tremblaient. Puis, elle est partie en direction de la maison. Luc a attendu toute la nuit. Il a même un peu bu, et peut-être un peu trop, mais cela ne se voit pas. Lorsqu'il entend la sonnette du portail, la colère était grande. Il alla ouvrir. La fit sortir de voiture. La mena un peu durement au salon. D'où viens-tu ? Elle ne répond pas. Réponds-moi, je veux le savoir. Elle ne dit toujours rien. Il fait signe de la gifler. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu ne m'aimes pas. Moi, je t'aime. Elle baisse ses yeux. Tu as un amant? Elle ne dit toujours rien. Curieux de la voir réagir ainsi, il la prend des deux mains et la secoue. Parle! Tout à coup, il sentit son odeur. Et tu as bu ma parole. Tu es une poissarde. Je n'aime pas les femmes qui boivent, ça me dégoûte. Je vais te faire passer l'envie de boire, moi. Tu vas voir. Je vais te faire passer l'envie de te moquer de moi. Il était tellement furieux qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Il la poussa dans un fauteuil. Courut vers le bar. Et une bouteille pleine de Pernod. C'est ça que tu aimes, hein? Il s'approcha d'elle à grands pas. Se pencha vers elle, la força à se pencher la tête en arrière en lui tirant les cheveux. Il s'avachit sur elle et bouchonna la bouteille. Ouvre la bouche. Il enfonça le goulot de la bouteille dans la bouche et la tête penchée, le corps sur elle pour qu'elle puisse pas bouger. Elle avait les yeux hagards, livides, les lèvres en sang, car il avait appuyé fortement le goulot pour lui faire ouvrir les lèvres. Un peu de Pernod coulait le long des lèvres. T'aimes ça, salope. Il est excité, une semaine d'angoisse, de colère, de désillusion. Il est à bout, il est en sueur. Le Pernod dégouline le long du visage, le cou, la robe. La bouteille est enfin vide. Il sue, se soulève. Elle reste inerte. Il posa la bouteille vide à terre. Salope, tu m'as fait mettre mon fils à la porte. Je suis sûr que c'était faux tes accusations contre mon fils. Mais qu'est-ce que tu as donc dans la tête? Il la prit, la maintient par les épaules et la sort de son appartement. Sortent de la maison. La tire vers la sortie de la propriété. Allonge sur le bas-côté de la route. La voiture était meuble, tu te les feras chercher. Mais sans toi, je ne veux plus te revoir. petit matin, elle se réveille, engourdie, mal à la tête. Elle a toutes les peines du monde à se réveiller. En titubant, le visage livide, elle marche sur la route. Un quart d'heure plus tard, un automobiliste qui l'a vue, là, s'est arrêté.
Vous allez où ?
À Lyon.
Eh bien vous, vous avez une de ces cuites.
Elle entre dans son appartement vide. Il est dimanche matin. Elle se couche sur le parquet et dort toute la journée. Lundi matin, elle dit à ses camarades de travail qu'elle était tombée sur un fou qui lui faisait des scènes pas possibles et qu'elle est retournée chez elle. Dans la journée, elle est allée voir une maison de déménagement et leur a dit d'aller prendre ses meubles et la voiture. Le déménagement se fait sans difficulté et rapidement, puisque les paquets et les malles n'étaient pas défaites. La concierge qui voit les meubles revenir lui dit
« On peut dire que vous alors... Vous déménagez, vous en revenez très vite. Oh, ne m'en parlez pas. J'étais tombée sur un drôle de coco. Il me faisait des scènes terribles parce que j'arrivais un peu en retard. Je n'avais pas le droit de sortir. Alors je suis partie. Je suis bien heureuse d'être ici. Rien ne vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Vous avez bien raison.
Le lendemain matin, en descendant les escaliers pour aller travailler, la concierge attrape.
J'ai oublié de vous dire. Hier, il y a des hommes qui sont venus. Ils vous cherchaient. Ils ont laissé un mot pour vous. Je vais vous le chercher.
Elle entre dans sa loge. Elle revient avec une enveloppe bleue. Judith la prend.
Merci.
Et elle sort. Ouvre la lettre et la lit.
Les huissiers risquent de revenir. Il faut que je redéménage provisoirement.
Dans la soirée, la porte du bar s'ouvre. C'est Judith qui apparaît. Elle s'assoit à une table. Commande une menthe à l'eau. Après être servie, elle en boit une gorgée et ouvre son sac pour prendre ses cigarettes. Et cherche pour l'allumer.
Vous désirez du feu, mademoiselle ?
Oui, merci.
Il prend dans sa poche de son pantalon un briquet et éclaire la cigarette.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Pourquoi pas ?
Je m'appelle docteur Félicien Lepeur.
Judith,
c'est moi qui tiens la clinique là, en haut de la rue.
Elle lui sourit. Elle commande une bière. Après qu'il ait bu, elle cherche dans son sac l'argent.
Mon Dieu, j'ai oublié. Je suis...
Cela n'a pas d'importance.
Il appelle le serveur, paye et ils sortent.
Nous sommes en septembre, l'air est encore doux.
Puis-je vous accompagner?
Oui, pourquoi pas.
Vous habitez où?
Rue Vendôme.
Le lendemain, il la reçoit dans son cabinet.
Je vous écoute.
Eh bien, j'ai des douleurs dans le ventre.
Où exactement?
De partout.
Vous avez vu un médecin généraliste?
Non.
Parce que moi, vous savez, je ne suis que chirurgien.
J'ai plus confiance en la chirurgie qu'aux médicaments. Vous savez, je crois en la science et je suis prête à tout pour l'aider.
Oh.
Oui.
Bien.
Un jour plus tard, l'on sonne à la loge de la concierge. Elle ouvre. D'un homme petit à moustache grise.
Mademoiselle Judith Leroy était chez elle.
Oh mon pauvre monsieur. Elle est à l'hôpital, elle se fait opérer. On va lui ouvrir tout le ventre. Elle apparaît et qu'elle a plein de pus. Avant qu'elle parte, elle souffrait beaucoup. Oh, c'est bien triste ça. Une si jolie femme.
Vous savez à quel hôpital elle est?
Eh bien, ma foi, elle a complètement oublié de me le dire.
Vous avez les clés de chez elle?
Vous êtes qui pour poser toutes ces questions?
Huissier.
Non, je n'ai pas les clés de son appartement, celles de sa boîte aux lettres seulement.
Et elle reçoit beaucoup de courriers?
Oh, que oui!
Montrez-le-moi.
Je ne sais.
C'est important.
Elle le fait entrer. Elle sort un buffet, une pile de lettres. Les lui tend, il les regarde.
C'est du courrier important, des factures, des rappels.
Il lui tend la pile de lettres.
Il faut vous débrouiller pour retrouver l'adresse où elle est. Vous ne pouvez pas garder ceci chez vous. Vous auriez des ennuis.
Mais je ne sais pas où elle est.
La clinique, près l'opération, l'assistant du docteur, qui est un jeune homme blond, grand et musclé, hausse sa tête et dit en sortant du bloc opératoire.
Elle demande pourquoi l'on a opéré cette femme, elle n'avait rien. Si, l'on trouve toujours quelque chose, et puis c'est elle qui l'a demandé. Si elle a demandé, c'est qu'elle en sentait le besoin. Et estimons-nous heureux qu'une de nos clientes demande à se faire opérer.
Cabinet de l'huissier, petit homme est devant son patron, qui est un gros homme chauve.
Vous êtes allé voir cette Judith Leroy? Oui, monsieur.
Alors, vous l'avez vue?
Non, monsieur. Elle est à l'hôpital. Elle se fait opérer. Ça a l'air très grave.
Oh, la pauvre. Nous pourrions les prévenir les créanciers que si elle ne peut payer, c'est dû à une force majeure. Et puis... mettons le dossier en attente.
Thank you.
Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pourquoi rentres-tu si tard ? Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement.